Une question, fil de la fourcade, la gendarmerie.
Parlez fort.
Fil de la fourcade, la gendarmerie. Est-ce que vous modélisez les événements extrêmes de manière à pouvoir améliorer leur prévisibilité? Je suis tout à fait néophyte en la matière, mais on a l'impression quand même, si on prend par exemple cet été très chaud, que les gens étaient globalement surpris. Or, peut-être qu'avec l'étude des phénomènes extrêmes antérieurs, il peut aussi arriver des modèles, je ne sais pas, qui permettraient d'être plus proactifs dans leurs prévisions, prédictifs, etc.
Alors, c'est une excellente question. Pour laquelle, la réponse est assez complexe. Alors, il faut savoir ce qu'on entend par prédire ou prévoir. Si on parle de prévision météorologique, la prévision météorologique, c'est ce que fait Météo France, très bien. C'est-à-dire qu'au jour J, je vais savoir si dans quelques heures ou quelques jours, je vais avoir une vague de chaleur majeure. Et ça, Météo France a très bien fait. C'est-à-dire, on savait, au pic de chaleur, on savait plusieurs jours à l'avance qu'on aurait cette vague de chaleur. C'est pour ça que l'éducation nationale a pu anticiper et reporter des épreuves du brevet. Enfin, il y a eu plusieurs sites d'anticipation. Maintenant, si je veux prévoir ce qui se passera dans un an, deux ans, dix ans, ça je ne sais pas, ça c'est impossible. Je peux juste vous dire que des vagues de chaleur, à la fin du XXIe siècle, il y en aura beaucoup plus, et beaucoup plus de pire que... qu'en 2003, mais je peux. C'est un exercice très différent. Alors maintenant, on travaille aussi sur la prévisibilité. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'une situation météorologique est prévisible ou non? Enfin, est-ce qu'on est capable, quelques temps à l'avance, de savoir si on va avoir plus de chances d'avoir une vague de chaleur ou non? C'est-à-dire quelques semaines à l'avance. Oui, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. C'est ce qui s'appelle la prévision à moyen terme. Mais les incertitudes sont telles qu'on ne peut pas se permettre de communiquer... on peut communiquer sur les incertitudes, mais si je vous dis que dans 6 mois, vous aurez une vague de chaleur majeure et qu'il pourrait aussi y avoir un été pourri, en fait, la plupart des gens n'écouteront même pas ce que je dis. On va attendre que je donne un message précis. Et à l'heure actuelle, on ne peut pas faire mieux pour plein de raisons scientifiques. C'est-à-dire que c'est ce qui s'appelle l'effet papillon. C'est-à-dire qu'une petite incertitude dans ma connaissance de la météo aujourd'hui, et cette petite incertitude, elle est toute petite, c'est vraiment le battement des ailes, fait que dans 20 jours, je ne suis pas capable de dire quel temps il fera. Donc, on y travaille.
Avec des ordinateurs beaucoup plus puissants, il y a une sorte de limite.
Alors, là, on est dans un domaine où le problème n'est pas la puissance des ordinateurs, parce qu'on sait que les ordinateurs qu'on pourrait imaginer entre maintenant et les 100 prochaines années ne suffirait pas à résoudre ce problème. Donc c'est un problème mathématique. Donc il faut savoir finalement qu'est-ce qu'on cherche à prévoir et quelle est la marge qu'on peut tolérer pour cette prévision. Et là, on est un peu dans le flou. Enfin, c'est la recherche en cours, c'est un truc assez difficile.
Autre question?
Oui. Mais pour les événements extrêmes du type...
Présentez-vous à chaque fois.
Pardon, Jean-Pierre Vendant, agence de l'eau. Pour les événements extrêmes type inondation, phénomène sédimentaire, est-ce que vous êtes en mesure, à côté du changement climatique, de dire que, par exemple, peut-être que les événements qu'on a vécus ces dernières années, ils seraient davantage liés à la population qui augmente sur certains territoires ou à la vulnérabilité de certains territoires, je pense en région méditerranéenne, des zones qui ont été beaucoup urbanisées. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus?
Alors, il y a des éléments. Enfin, moi, je ne travaille pas spécialement sur... Alors, c'est un peu le graphique que je montrais entre au début sur la vulnérabilité, enfin, sur le risque. Quand on parle de précipitations... les précipitations intenses, je considère que c'est mon domaine. Donc, c'est l'événement météorologique. L'inondation n'est plus un événement météorologique. Donc en fait, on peut avoir des inondations sans précipitation intense. Dans le sud de la France, par exemple, les inondations qui ont lieu au printemps ne sont pas liées à des précipitations intenses, mais à la fonte de la neige. Donc c'est pour ça que l'inondation sort complètement de mon domaine de compétence. Cela dit, les inondations qu'on a dans le sud de la France à l'automne liées aux précipitations intenses et les dégâts collatéraux qu'on a, c'est-à-dire que soit des gens qui perdent la vie ou des bâtiments qui s'écroulent, c'est exactement lié à l'aménagement du territoire. C'est-à-dire que on a bétonné toute la Côte d'Azur, et donc dès qu'il pleut, en fait, l'eau ne s'évacue pas de manière naturelle dans le sol, elle dévale la pente, parce qu'il y a de la pente à ces endroits, elle dévale la pente, et là, c'est là qu'on a l'inondation et les dégâts. Donc le dégât lui-même n'est pas nécessairement lié directement à l'aléa climatique, mais plus à la partie droite du diagramme, c'est-à-dire le fait qu'on soit là et qu'on est construit avec du béton sans la possibilité d'évacuer l'eau qui peut tomber. Et l'eau qui peut tomber, il peut en tomber énormément en très peu de temps dans ces endroits.
Autre question ?
C'est du plan de au carré. J'ai entendu, avec les vagues de chaleur, il y avait une probabilité de multiplier par 10 d'ici la fin du siècle ou assez prochainement ?
Alors là, je parle pour 2019, je parlais de ce style de vague de chaleur.
Oui.
Donc c'est des vagues de chaleur. Alors, 2019, même s'il fait très chaud, n'est pas comme 2003. C'est pas une question de température, c'est une question de la météorologie n'est pas la même. En 2003, il n'y a pas de vent. En 2019, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a du vent en permanence, du vent du sud. En fait, c'est un phénomène météorologique complètement différent. Et ce genre de phénomène météorologique, en fait, devient beaucoup plus probable. Donc, qu'on multiplie par 2 ou 10, on multiplie par 2 ou 10, ce qui est déjà pas mal.
Parce qu'on parlait de la question de prévoir, et du coup, ça pose la question de l'adaptation des villes, et puis
oui.
De là où on vit, et du coup, peu importe si c'est l'année prochaine ou dans 2 ans,
si oui.
Ça revient à une telle probabilité.
Exactement.
Ça
devient plus fréquent.
Et on voit. Dans 10 ans, c'est devant.
Oui, c'est ça. Je ne suis pas capable de dire si un événement comme ça va se placer l'année prochaine.
Oui.
Ou dans 2 ans, mais je peux vous dire que à l'échelle dans les 50 prochaines années, donc qui est en gros la durée de vie, la durée de vie minimale d'un bâtiment, et ben en 50 ans, le bâtiment il vivra une dizaine de ces événements. Voilà, peut-être.
Autre question ?
Oui.
Juste deux questions. La première, est-ce que vous travaillez sur les stratégies d'adaptation par rapport à l'évolution des données ?
Absolument pas. Non, mon rôle, c'est. Je suis désolé de vous dire ça. Mon rôle, c'était si vous vous rappelez le diagramme avec les ours, c'est sur la gauche, qu'est-ce que l'aléa climatique, comment est-ce qu'on peut.
Sur qu'est-ce que l'aléa climatique, les politiques de gestion de risque et même les dimensionnements des bâtiments, elles sont souvent basées sur. L'analyse des données historiques, des probabilités de stress. C'est quoi du tout le bon parangon vraiment sur lequel se baser pour l'avenir, pour définir ce dans quoi on doit s'appuyer, ce sur quoi on doit s'appuyer pour dimensionner une politique de gestion de risque ou en fait.
Je suis très content que vous me posiez cette question. Qui fait écho à une discussion que j'avais avec Yves Caristan il y a quelques minutes. Moi, je suis assez convaincu que si on dimensionne les infrastructures ou quoi que ce soit par rapport à des données du passé, on dimensionne mal. C'est-à-dire que y a deux. Mais bon, d'un côté, si on veut légiférer, on est obligé de se baser sur des faits. D'accord ? Donc il y a cette distinction entre des faits. Alors des faits sont forcément des choses qui sont passées. Donc c'est le passé. Mais quelque part, on vit dans un monde où le passé est révolu. C'est-à-dire qu'il y a très peu de chances pour que des choses qu'on a déjà vues se reproduisent à l'identique. Et il est très probable que, que le futur soit très différent du passé. C'est un peu parce que la courbe monte. Et si, moi, ce qui me fait peur en tant que citoyen, c'est que si on se base, si on légifère sur des données du passé, sans se rendre compte que ces données du passé, en fait, ont une tendance, eh bien, on sous-estime le risque, tout simplement parce qu'on sous-estime la vulnérabilité.
Mais concrètement, ça veut dire que par rapport aux collectivités, aux villes aujourd'hui, je pense qu'elles peuvent prendre en compte des données comme celles que vous avancez là en termes d'adaptation. Je repose un peu ma question tout à l'heure, est-ce que c'est différencié à l'intérieur de la France, quoi ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va donner le même horizon plus ou moins difficile en termes d'adaptation à la région nord, à l'est, au massif central, au midi, ou est-ce qu'on pense qu'on peut avoir une espèce de base commune qui fait que les stratégies d'adaptation, en gros, seraient les mêmes ?
Ça dépend du secteur. Ça dépend du secteur économique dont on parle. Si vous parlez à des viticulteurs, on voit qu'il y a une migration vers le nord des espèces.
Non, mais je pense par exemple aux îlots de chaleur dans les villes. C'est un vrai sujet pour beaucoup de gens. Enfin, on a quand même aujourd'hui une grande partie de la population qui vit en ville et on voit bien que les villes augmentent la chaleur et que ça pose les vagues de chaleur par rapport aux villes. Est-ce que ça va être les mêmes à Nîmes, à Lille, à Strasbourg ou à Brest, quand même, qu'il faut s'y préparer de la même façon.
Des villes comme Nîmes,
est-ce qu'on a des éléments pour différencier
Nîmes et Montpellier ne sont pas conçus de la même manière que Lille.
Non, mais je veux dire, en termes d'analyse des aléas, ce que vous faites.
Ah oui, on est obligé de faire ça de manière régionale.
On a les éléments là-dessus.
Ah oui, le sud de la France ne se réchauffe pas de la même manière que le nord de la France.
C'est ça ma question.
Et donc, il se réchauffe de la même manière, il se réchauffe plus, il se réchauffe moins. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme élément régionalisé?
Alors. En fait, le sud devient plus sec plus rapidement que le nord de la France. Et donc ça, c'est un enjeu économique. Les températures les plus fortes sont toujours dans le sud de la France. En 2019, par exemple, on a battu les records de France métropolitaine, surtout dans le sud de la France. Après, les records locaux sont battus à peu près partout, mais les records à Lille ne sont pas du tout les mêmes que les records. Par contre, le nord se réchauffe plus vite, mais ça ne va plus dépendre de cette augmentation globale de la température, mais du fait qu'on a des masses d'air qui ne sont pas complètement connectées entre le nord et le sud. C'est-à-dire que le nord n'est pas sujet au même style météorologique que le sud de la France. Donc c'est pour ça que les choses deviennent subtiles d'un point de vue scientifique. C'est-à-dire que la raison pour laquelle il fait chaud dans le nord de la France n'est pas toujours la même que la raison pour laquelle il fait chaud dans le sud de la France.
On va prendre peut-être deux dernières questions.
Bonjour, oui. Marc de Bassette, je voulais savoir que sur l'outre-mer, parce que là tout à l'heure vous avez parlé des vagues de chaleur, multipliées par 10, effectivement, sur la donnée mais les cyclones comme on a eu sur Maria et Irma qui étaient dévastateurs par rapport à nous, ce qu'on attendait sur cette zone, l'occurrence multiplie par combien?
Alors le nombre de cyclones lui-même est assez stationnaire depuis qu'on a des satellites où on est capable de compter les cyclones de manière assez fiable. Par contre, ce qui change, il y a plusieurs choses qui changent. Hein. C'est pas le nombre de cyclones, c'est que les cyclones les plus forts semblent devenir encore plus forts. Donc ça, c'est un truc qu'on comprend assez bien avec cette relation du flux du Cap-Héron, de rétention d'eau. Et les précipitations qui sont liées aux cyclones deviennent plus intenses aussi. Donc c'est pas la vitesse du vent qui croît, c'est même pas le nombre de cyclones, c'est le fait que les cyclones les plus forts deviennent plus fort, il pleut plus, et on a remarqué aussi qu'ils ont tendance à aller un peu plus vers le nord. Un peu plus vers le nord, de quelques dizaines de kilomètres. C'est pas beaucoup. Hein. si bien que cette année, enfin l'année dernière, je veux dire, en octobre dernier, il y a un cyclone tropical qui s'est transformé, qui est allé jusqu'au large du Portugal. C'est un truc qu'on n'avait jamais vu. C'est, en général, les cyclones tropicaux atlantiques, ils s'arrêtent, ils meurent au milieu de l'Atlantique parce qu'ils ne font plus assez chaud, ils ont plus de fioul. Mais là, celui-là est allé jusqu'au Portugal. Donc on a des... Et l'année d'avant, il y a eu un cyclone comme ça qui allait jusqu'au large de l'Irlande.
C'est ça que vous avez sur le slide tout à l'heure, cyclone européen.
Voilà, exactement. Donc les cyclones européens, c'est des choses qui naissent dans les tropiques et qui peuvent dévaster l'Est américain, mais éventuellement dévier vers le nord et aller jusque chez nous.
Donc ça a eu aussi un cyclone
qui est remonté jusqu'à l'hiver. Oui, Katrina. Non, c'était pas Katrina, c'était Sandy. Sandy, en... Mais en Amérique, New York a une latitude assez faible. New York a une latitude de plus. C'est pas complètement normal. Elle traverse l'Atlantique pour arriver jusque chez nous. Par contre,
c'est nouveau.
C'est normal.